Bon, donc aujourd'hui, on va continuer cette séquence portant sur l'histoire des Français à l'outre-mer et comment, en fait, on a vu se faire articuler des réseaux de commerce. Et aujourd'hui, en particulier, c'est mon intention d'aborder le problème de la création de la Compagnie des Indes. Et pour vous démontrer en effet comment cette compagnie se trouve en quelque sorte au croisement de plusieurs chemins et de destins, dont celui de Le Gousse de la Boulaye, qui a quand même joué un rôle, même si pas très essentiel, mais néanmoins assez particulier dans la création de cette compagnie. Mais je vais en fait aborder le problème en commençant un peu ailleurs. Et d'ailleurs, en commençant avec une petite histoire de pirate. Donc, ça, c'est un texte publié donc, dans les Pays-Bas en 1663. Et c'est un texte qui décrit la fin d'un procès contre quelqu'un, un pirate, qui autrefois avait travaillé pour les Néerlandais, qui s'appelle Lawrence Davidson, et qui, selon le texte, a donc passé du temps à faire ce qu'on appelle ici zeeroverijen en piraterijen. Donc, il a été un voleur sur la mer et un pirate. Et dans ce texte, donc publié à Dordrecht, on écrit ce qui s'est passé avec Monsieur Davidson, mais aussi avec quelqu'un qui a travaillé pas mal avec lui. Et c'est plutôt cet autre monsieur qui nous concerne plus, et c'est Hubert Hugo. Alors, c'est qui donc Monsieur Hugo? C'est quelqu'un qui a eu une carrière très compliquée, et je vais vous décliner un peu comment ça s'est passé avec lui. Il est donc né en 1618 à Delfshaven, et à l'âge de 21 ans, il a donc pris emploi chez la compagnie néerlandaise, chez la VOC. Il a passé du temps, il est monté petit à petit dans les rangs en Inde et ailleurs, jusque donc en 1652, quand il est devenu chef du comptoir néerlandais à Ahmedabad, donc dans le Gujarat. Alors, par la suite, apparemment, il est un peu déçu à la fois par les salaires et par la vitesse de sa carrière. Donc, il rentre aux Pays-Bas et à un moment donné, il rencontre donc cet autre monsieur Lawrence Davidson et ils vont se mettre ensemble pour un petit projet donc, en effet, de piraterie. Alors, en 1652, donc il était à Ahmedabad, il y a une espèce de trou entre les deux, mais on sait qu'en mai 1661, il est arrivé au Havre, où il a eu des pourparlers avec des Français, et il a reçu une lettre de marque, on verra par qui, et avec ça, il est parti avec un vaisseau bien armé, probablement de 36 canons ou quelque chose comme ça. Et qui s'appelle donc, en fait, au départ des Pays-Bas, ça s'appelait les Sept Provinces, mais en arrivant au Havre, il a changé le nom et il a pris le nom de Zwarten Arend, qui veut dire l'aigle noir, un nom assez sinistre. Et avec ça, donc fin août 1661, il part du Havre, il arrive à Madagascar janvier 1662, et là, à partir de 1662, pendant un an et un peu plus, il y a énormément de données sur ses activités, essentiellement en mer Rouge, où il a fait une série de dégâts assez énormes. Il a capturé beaucoup de navires, dont le plus spectaculaire était un navire appartenant à la reine-mère du sultanat de Bijapur, donc un sultanat dans l'Inde occidentale. Et ils ont donc fait cette capture. Ils ont donc pris pas mal d'argent qui était normalement envoyé en aumône par ces sultanats à la Mecque. Il a aussi pris des étoffes et d'autres produits. Et voilà, donc, en 1663, il fait le retour en France, mais toujours comme il est toujours assoiffé d'avoir un peu plus de butin, il passe aussi par les Caraïbes, il est à Martinique, il est à Saint-Kitts, où il va aussi attaquer d'autres vaisseaux, et finalement pour rentrer en France en 1663. 12 juin 1663, on a une lettre écrite par Louis XIV au seigneur des États généraux des Provinces Unies des Pays-Bas. Donc ça, c'est Louis XIV, en passant par son ambassadeur aux Pays-Bas, le comte d'Estrade. Alors, voilà le contenu de la lettre. « Très chers grands amis, alliés et confédérés, nous avons reçu la lettre que vous nous avez écrite le 24 de l'autre mois, par laquelle vous nous suppliez de faire mettre en arrêt par autorité les personnes, les vaisseaux et les biens de ceux qui se trouveront complices des pirateries qu'un vaisseau, et là il y a une petite confusion, nommé Hubrecht Hugo, natif de la ville de Dordrecht, a fait dans la mer Rouge, à ce qu'on vous a donné à entendre sous le pavillon de différents... pavillons différents de plusieurs rois et états de l'Europe, sur quoi nous vous dirons que cette affaire étant la même du capitaine Laurence David, dont le sieur comte d'Estrade, notre ambassadeur extraordinaire, vous a déjà parlé de notre part pour vous faire entendre l'intérêt que nous y avons. Il fait instance même que la personne du dit David nous soit remise comme ayant nommé son vaisseau sous une commission, afin qu'il vienne rendre compte à nos amirautés des prises qu'il a faites en son voyage. Alors donc, en effet, là, il y a le roi de France qui est en train, en quelque sorte, de dire que M. Hugo et son confrère, en fait, ont agi sous pavillon français, et on sait très bien, en fait, comment ça s'est passé, parce que, en effet, c'est l'oncle de Louis XIV, ça c'est donc César de Vendôme, le duc de Vendôme, donc le demi-frère de Louis XIII, qui, à l'époque, a donné une lettre de marque à ces deux messieurs pour aller en mer Rouge et ailleurs dans l'océan Indien faire précisément ces prises. Et on sait très bien qu'en fin de compte, ils sont rentrés en France. Monsieur Laurence David a eu le malheur d'être pris par les Néerlandais, tandis que Monsieur Hugo, lui, est resté sain et sauf au Havre. Et donc, il a en effet fait le partage de ce qu'il a trouvé en océan Indien et en mer Rouge en particulier avec les autorités françaises. On sait également que peu après cette lettre et le scandale qui a suivi aux Pays-Bas, car les Néerlandais n'étaient pas du tout contents avec cette histoire des gens allant sous pavillon français en océan Indien, parce qu'il y a eu des réactions très fortes, par exemple, contre tous les Européens, car on ne faisait pas tellement la distinction entre une nation européenne et une autre quand il s'agissait de ces questions de piraterie. Donc, par exemple, à Sourate, ça fait scandale. Les autorités de Sourate sont très, très en colère contre les Européens. Et les gens de Bijapur également. Mais M. Hugo, quant à lui, il se trouve au Havre en 1664 et il écrit une mémoire sur le commerce des Indes pour M. Colbert, où il explique, pas tant l'histoire de la piraterie, mais comment en fait il faut commercer, comment en fait il faut créer un réseau. Et ce texte, qui d'ailleurs pour l'instant n'a jamais été publié pour une raison, on n'a pas l'original en néerlandais, mais la traduction en français. Et alors, dans ce texte, il explique, en gros, un projet qui est très, très semblable au projet que j'avais décrit auparavant de Beaulieu. C'est-à-dire, c'est un projet basé sur Madagascar et sur les Mascareignes, avec des bras en allant vers la mer Rouge, en Inde et ailleurs. Et ça, c'est donc une pièce dans ce grand puzzle. Parce que c'est en effet une espèce d'assemblage de puzzle qui va faire, comme on verra, Colbert pour créer cette compagnie. Alors, M. Hugo, quant à lui, finalement, il n'a pas eu un emploi avec les Français. En 1671, il écrit encore une fois, mais cette fois-ci aux Pays-Bas, en expliquant comment il est un spécialiste donc, des Mascareignes. Les Néerlandais viennent de prendre sous leur contrôle l'île Maurice. Et donc, il est nommé chef de l'établissement néerlandais de l'île Maurice, où il va passer 6 ou 7 ans en faisant quelques expériences botaniques, etc. Et finalement, il meurt à Batavia en 1678, ayant passé donc une partie de sa vie avec les Français et une partie de sa vie donc avec les Néerlandais. Et ça, on verra que c'est assez typique, cette espèce de passage entre différents maîtres et entre différents pavillons. Alors, ce qu'il faut donc garder en tête, c'est qu'il y a, pour repenser cette histoire des projets de Colbert et comment ils ont été conçus, il faut partir d'une idée qui n'est pas vraiment une idée d'un projet français, mais un projet qui se fait avec un visage français, mais en réalité qui est un projet beaucoup plus compliqué. Cette question a été soulevée et discutée un peu dans plusieurs livres avec des visées différentes. Par exemple, le livre que vous voyez ici à gauche par Glenn Joseph Ames est le seul livre d'ailleurs dans les derniers 25 ans qui est directement concerné par la création de la compagnie. Colbert, Mercantilism and the French Quest for Asian Trade, où il a utilisé à la fois des sources françaises et portugaises, mais pas tant les sources néerlandaises. Là, vous avez le traitement classique de M. Daniel Dessert, le royaume de M. Colbert, où il traite toutes ces questions dont il est spécialiste, les questions de finances, ce qu'il appelle, lui, le lobby Colbert, la famille de Colbert, comment en fait ils ont, dans les années 1660 et 1670, sont emparés en grande partie des finances, des hautes finances en tout cas. Et là, le dernier de ces livres qui vient de sortir, qui est une tentative par un historien américain, Jacob Sol, de traiter tout cela sous le plan essentiellement de la question de l'histoire de l'information. Donc là, en voyant comment c'est une espèce de... il y a beaucoup d'études récentes qui ont pris ça, qui est d'ailleurs un peu influencé, moi je dirais, par les études de l'informatique, c'est-à-dire regarder ces systèmes et ces royaumes comme des systèmes d'information et des réseaux d'information, soit centralisés, soit pas centralisés. Donc là, c'est son point de vue. Et à la fois, donc, il s'intéresse par l'espionnage, mais aussi par les réseaux personnels que Colbert avait donc mis en place et sur lesquels il a basé ses projets différents. Mais alors, malgré l'existence de ces livres, je crois qu'il y a encore du travail à faire sur les complexités pour démêler un peu les difficultés et surtout pour démêler, pour arriver à comprendre pourquoi en fait la compagnie française a eu une naissance si difficile. Parce qu'on verra que pas seulement les Français ont vraiment peiné à créer une compagnie pendant toute la première moitié du XVIIe siècle, mais même avec ce projet de Colbert, en fait, ça a pris quelques décennies pour se mettre sur pied. Et on verra que ça a à voir justement avec cette complexité et cet aspect assez divers de la composition de la compagnie. Alors... Heureusement, bien sûr, l'avantage avec Colbert, et c'est une des raisons pour lesquelles on a tous ces livres, c'est un archive qui est assez bien constitué, en passant par les mélanges de Colbert et d'autres sources qu'on a. Alors, donc, on peut facilement trouver quelques-uns de ces personnages clés. Certains sont plutôt connus, certains ne sont pas si connus que ça, qui ont aider pour mettre sur pied ce projet de la compagnie de Colbert. Alors, on connaît bien sûr ce monsieur-là, Monsieur Legousse de La Bolaye. On sait qu'il a donc écrit son récit de voyage, une fois publié en 1653, deuxième fois en 1657, qu'il fréquentait la cour. Il a même reçu un poste comme dans les eaux et forêts de l'Anjou. Donc, il était un familier de la cour de Louis XIV et manifestement, il parlait, on a vu, pas seulement avec des gens haut placés, mais avec des intellectuels plus largement. Il était en contact donc avec Gassendi, il était en contact avec Thomas Hobbes, etc. Mais à part lui, en fait, il y a d'autres personnages un peu plus obscurs qui ont aussi joué un rôle. Dans les papiers de Colbert, par exemple, on trouve un texte dont l'auteur n'est pas extrêmement clair, mais en regardant de près, on comprend que c'est un jésuite, un portugais, qui s'appelle Damião Vieira, et qui a écrit un texte qui s'appelle « Mémoire de l'état présent des affaires des Indes », Si on regarde dans les archives portugaises, on comprend très bien qui est Damião Vieira. C'est un jésuite, mais un jésuite très militaire. Il a joué un rôle fondamental dans le siège de la forteresse de Colombo quand il a plus ou moins organisé la défense contre les Néerlandais dans les années 1650. Par la suite, il a aussi joué un rôle d'ambassadeur. Il a été envoyé par les Portugais chez le roi Marat Shivaji. Mais il est quelqu'un donc, qui s'y connaît au niveau aussi de la cartographie, des forces et des faiblesses des différents groupes européens. Et donc, c'est à partir de cela qu'il va écrire ce texte. Il y a un deuxième personnage qui est assez curieux, d'ailleurs, et on trouve des traces de lui ici et là dans les archives, et ça, c'est un certain M. Holmes. Alors, là, encore une fois, en creusant, on arrive à comprendre qui est M. Holmes. Ce M. Holmes, en fait, c'est Sir Robert Holmes. C'est un Anglais, et qui, d'ailleurs, est assez connu dans l'histoire militaire de l'Angleterre et surtout dans l'histoire navale, car à un moment donné, dans les années 1650, il avait monté des expéditions sur la côte ouest de l'Afrique et il a aussi fait pas mal de choses à partir d'une présence qu'il avait consolidée sur l'île de Wight. Et d'ailleurs, il y a un petit texte sorti en 1677 qui est une espèce de polémique, qui s'appelle donc « A seasonable argument to persuade all the grand juries in England to petition for a new parliament ». Et donc, c'est une liste, il dit, « A list of the principal laborers in the great design of popery and arbitrary powers who have betrayed the country to the conspirators ». Donc, ce sont des gens qui font des conspirations pour le pape. Et parmi ces gens, on trouve qui ? On trouve ici, à Winchester, Sir Robert Holmes, first an Irish livery boy, then a highwayman, and now Bardshaw. Bardshaw, c'est le mot qui est utilisé, B-A-S-H-A-W, Bardshaw, of the Isle of Wight. Got in bones and by rapine, £100,000. The cursed beginner of the two Dutch wars. Donc, on mis sur son dos, les deux guerres anglo-hollandaises, selon ce texte, ont été causées par l'intervention de ce monsieur Robert Holmes. Alors, je vous donne un petit exemple de l'intervention de M. Holmes auprès de Colbert. Donc, c'est un texte des mélanges de Colbert. Si votre majesté a jamais dessein de commencer la guerre avec M. les États d'Hollande, donc vous voyez, il est vraiment dans cette affaire comme ça, il sera de très grand avantage pour le bien de son service de faire prendre leur flotte des Indes orientales, laquelle vaut plus de 2 millions de livres sterling. Ce qui se pourra exécuter facilement avec 8 ou 9 bonnes frégates bien armées et fournies de toutes les sortes d'ammunitions, vitouailles pour leur subsistance de 9 ou 10 mois, et en cas que les 10 vaisseaux de guerre ne fussent pas capables de porter les vitouailles pour le nombre d'hommes nécessaires à l'exécution de tels desseins, il sera besoin d'avoir une grande flûte ou deux pour porter leurs vitouailles de supplément. Il faut que cet escadron soit en état de faire voile vers le commencement de novembre, afin qu'elle puisse être au cap de Bonne-Espérance au commencement de mars suivant et qu'en arrivant, elle fasse aussitôt descente de 700 ou 800 hommes pour prendre le fort que les 10 Hollandais y ont bâti, lequel n'est pas encore parachevé, ni ne le pourra être de plus de 2 ou 3 ans. Les terres de ces pays-là sont très riches, etc. Donc, il propose la prise de la colonie de Cap, avec une flotte française. Et d'ailleurs, il a toute une série d'autres propositions un peu de ce genre. Et il finit, et ça c'est un autre inscrit qui le dit, « Monsieur Holmes propose autre cela, une descente en Hollande pour brûler et prendre la plupart de leurs grands vaisseaux dans le port de Helvant. Il dit qu'il n'est défendu que par des batteries sur le bord de la mer, sans aucun fort ni redoute, et que 2000 hommes suffiront pour mettre pied à terre avec des barques longues et bâtiments plat que l'on moyennera exprès et qu'après avoir chassé les gens des batteries, on entrevoit sans péril les grands vaisseaux et les brûla dans le port. » Donc, M. Holmes, qui est aussi quelqu'un qui a ses propres idées, des idées donc plutôt d'un affrontement très direct avec les Néerlandais, à la fois dans le cadre de l'océan Indien, les flottes de retour, et aussi même cette idée d'aller attaquer directement les Néerlandais chez eux. Donc ça, c'est un autre personnage. Mais il y a aussi, bien sûr, d'autres dont il faut parler, qui sont des gens essentiels dans cette affaire. Hein, et c'est surtout le personnage de François Caron sur lequel il faut s'arrêter un peu. Alors, là, vous voyez encore qu'on est dans un cadre très compliqué et pas du tout nettement hexagonal ou français. Alors, qui est François Caron? C'est quelqu'un qui est né donc à Bruxelles, d'une famille huguenot-française. À l'âge de 18 ou 19 ans, il est employé par la compagnie néerlandaise comme aide-cuisinier. Et il va aller donc au Japon. Et ça, c'est vraiment plutôt au début du commerce néerlandais avec le Japon. Donc ça, c'est avant la création de l'île artificielle de Deshima, etc. Et il est là et il est très impliqué dans cette affaire sur laquelle je vais revenir brièvement. C'est cette fameuse affaire de Peter Nautz, qui est une histoire très dramatique, mais qui a démontré en quelque sorte les difficultés de traiter avec les Japonais comme s'ils étaient n'importe quel pouvoir dans le cadre asiatique. Alors, par la suite, il passe du temps, presque 11 ans, entre le Japon et Batavia. Et en 1641, donc, il va retourner aux Pays-Bas pour voir s'il peut encore avancer dans le cadre de la compagnie. Il arrive à avoir une position. Il retourne à Batavia en 1643. D'ailleurs, entre-temps, il s'est marié avec une femme japonaise, ou en tout cas, il a une compagne japonaise. Il a 5 ou 6 enfants avec elle. Et donc, il a aussi la question de ses enfants à gérer et à régler. Alors, en 1643-44, il est parti en campagne contre les Portugais au Ceylan. Qui sait s'il avait même eu l'occasion de lutter contre le père Damien Vieira. En tout cas, par la suite, il est disgracé parce qu'il est lié avec un gouverneur, Cornelis van der Leyen, qui a des problèmes sur des aspects de sa gestion financière. Il est renvoyé donc aux Pays-Bas. Et là, il va disparaître pendant un certain temps, sauf qu'en 1664, le même comte d'Estrade va rentrer en contact avec Caron pour demander si jamais il a envie de revenir travailler pour les Français dans le cadre de la compagnie française. Et là, on verra comment ça va marcher pour lui, mais juste pour vous dire pour vous donner une petite idée rapide tout de suite. Donc, il part de La Rochelle en 1666, il arrive en 1668 à Sourate. Il va rester donc à peu près 5 ans, ou 4 ans et demi, et sur son retour, il est obligé plus ou moins de retourner parce qu'on soupçonne qu'il a fait des choses qu'il ne fallait pas. Il va détourner son navire parce qu'il n'a pas envie de rentrer en France, et en essayant de rentrer dans l'embouchure du Tage, il fait naufrage et il est mort, donc noyé, en avril 1673. Mais alors, revenons un peu, juste un peu rapidement sur Caron. Donc Caron, c'est quelqu'un qui est un grand connaisseur du Japon, qui a écrit ce texte, qui est publié en 1636, donc « Rechte beschrijvingen van het Machtig Koninkrijk van Japan », et alors dans lequel il nous livre une description, par exemple, là, sur la grandeur du Japon, etc. Donc vous voyez que c'est quelqu'un qui avait, beaucoup avant Engelbert Kämpfer, sur lequel on avait parlé il y a quelques mois, qui a participé dans la mise en place d'une certaine image du Japon. Alors, on sait pas mal de choses sur Caron et sa carrière japonaise. Entre autres, il a aussi tenu un journal pendant un certain temps. Mais il est surtout connu pour cette histoire que je viens de vous décrire de Peter Nautz. Peter Nautz, donc, c'est un Hollandais extrêmement agressif qui a eu la mauvaise idée de rentrer en conflit avec le shogunat à la fin des années 1620. Il a donc pris et arrêté quelques navires japonais au Taïwan. Et le shogunat était tellement furieux avec lui qu'ils ont demandé au conseil de Batavia de le rendre pour être puni au Japon. Et les Néerlandais avaient tellement envie de ce commerce du Japon qu'ils l'ont rendu. Et donc, ce monsieur, qui était assez haut placé dans l'hiérarchie de la compagnie, a passé, purgé 4 ans de peine dans une espèce de... c'était pas très, très pénible parce que c'était plus ou moins une situation de luxe, mais il a passé 4 ans au Japon, enfermé. Et pour démontrer son mépris pour les Japonais, en fait, ce qu'il a fait, c'était d'amener des livres en latin et faire écrire des commentaires sur ces livres en latin et sans prêter la moindre attention aux Japonaises. Donc, il est resté au Japon 4 ans sans dire un mot sur les Japonais et il s'est contenté de faire des commentaires sur les textes en latin de l'époque médiévale, donc pour dire en quelque sorte qu'il était complètement indifférent à cette question d'être emprisonné par les Japonais. Mais c'était une grande leçon pour les Néerlandais qui ont compris qu'il ne fallait pas jouer avec les Japonais comme ça en faisant arrêter leur navire et des choses comme ça, car on pouvait payer très cher ce genre de jeu. Alors, c'est intéressant aussi parce que dans cette affaire, Caron était l'interprète. C'est lui qui faisait des allers-retours entre la cour japonaise et Batavia. Et c'est intéressant parce qu'on a des lettres diplomatiques dans lesquelles le shogunat dit qu'ils ont entière confiance en Caron. Donc qu'il est parmi les seuls qui a vraiment une compréhension du Japon et des Japonais, etc. Et ça, c'est plutôt curieux parce qu'on a donc l'impression de quelqu'un qui est un peu à l'opposé de Nat, c'est-à-dire un homme d'une très grande ouverture culturelle, mais comme on verra, une certaine ouverture culturelle dans un certain contexte ne veut pas dire que c'est une ouverture culturelle dans un autre contexte. Et on verra pourquoi. Alors, Caron, pour sa part, donc, nous a aussi livré un texte, qui est un texte qu'il a écrit, donc, qui est encore une fois une mémoire pour Colbert, dans lequel il propose une autre façon de prendre la question du commerce avec l'Asie. Il dit que lui, et ça c'est un peu contraire à l'opinion de Hugo, il dit que l'île de Madagascar est un peu éloignée des quartiers du sud, à savoir de la côte de l'Inde, de celle de Malabar, de Bengale, de Surat et de Coromandel. Et donc il trouve que plutôt que se centrer sur les Mascareignes et sur Madagascar, il faut trouver une autre place plus propre vers ces quartiers du sud qu'on pourrait fortifier plus facilement et mieux parce qu'elles seraient de petite étendue. En fait, donc en quelque sorte, sans trop forcer les traits, on peut dire que Caron serait déjà un peu le maître à penser d'un projet plutôt de Jean Pondichéry. Donc, plutôt qu'un emplacement vers le sud, il serait plutôt en faveur de quelque chose qui serait sur le sous-continent indien, en tout cas plus au nord et plus au centre de l'océan Indien et pas dans cette espèce d'emplacement ex-centré. Mais alors, donc, Caron, lui, apparemment, en traitant avec le comte d'Estrade, ensuite en traitant avec Colbert, il a l'impression que c'est lui le meneur de jeu. C'est lui qui va, en quelque sorte, organiser toutes ces choses. C'est lui, après tout, qui a une grande expérience de l'océan Indien, qui a été, bien sûr, plus dans la partie orientale de l'Asie, mais néanmoins qui a joué un rôle important. Mais alors là, il faut juste s'arrêter un instant pour revenir sur ce qui se passe derrière tout ça. C'est-à-dire, vous voyez qu'il y a Colbert qui est en train de jouer, à mettre en place toutes les pièces. Il y a M. Vieira qui lui donne un peu la géographie politique de l'Inde. Il y a M. Holmes qui a une espèce de stratégie navale. Il y a M. Caron qui est censé être spécialiste du commerce des Indes. Et là, finalement, Colbert va jouer ça d'une autre façon, c'est-à-dire il va demander à un académicien, François Charpentier, d'écrire un texte, un texte qui s'appelle « Discours d'un fidèle sujet du roi touchant l'établissement d'une compagnie française pour le commerce des Indes orientales » en 1664, dans lequel, donc, Charpentier, et c'est évident qu'il n'est que la plume, parce que les idées vient certainement de derrière, vient de Colbert, vient donc de d'autres sources qu'il a été en quelque sorte on a fait le nécessaire pour le background. Et alors donc vous voyez un peu comment il écrit, adressé à tous les Français. S'il est de la grandeur d'un État que ses peuples s'appliquent aux exercices militaires pour résister aux entreprises des étrangers, il n'est pas moins de son utilité qu'il s'adonne au commerce pour aller chercher dans les parties du monde les plus éloignées ce qui peut contribuer au bonheur ou à l'ornement de leur pays. Et de fait, cette occupation accomplit toute seule les deux choses que les grands politiques désirent le plus, je veux dire qu'elle retire les hommes de l'oisivité. D'ailleurs, là, il y a un écho assez intéressant du texte de François Martin de Vitré au début du XVIIe siècle. De l'oisivité, les endurcit à la fatigue et en même temps les comble d'honneur et de biens, tellement qu'il manque quelque chose à la prospérité d'un grand royaume quand le commerce ne fleurit pas à l'égal des autres professions et quand les particuliers, par une mollesse dangereuse, néglige la plus noble manière de s'exercer et le plus légitime moyen de s'enrichir. Donc, là, il continue un peu comme ça. C'est pour justifier, c'est pour faire en sorte qu'il y ait un peu d'enthousiasme derrière cette compagnie. Mais on sait qu'en réalité, il n'y a pas eu un très, très grand enthousiasme et que Colbert a eu finalement besoin de tordre le cou à un certain nombre de personnes pour avoir l'argent. Donc, c'est-à-dire, il n'y avait pas, c'est pas comme si on était aux Pays-Bas. Si on veut faire la comparaison, d'un côté, on peut mettre, par exemple, la Compagnie des Indes des Pays-Bas ou la Compagnie des Indes en Angleterre, où ils ont été plutôt bien souscrits depuis le départ, surtout aux Pays-Bas. Et le cas français, à mon avis, se place plutôt du côté, par exemple, des Danois, qui ont eu le même genre de problème, c'est-à-dire Christian IV, quand il a voulu créer sa compagnie, n'a pas pu susciter de l'enthousiasme chez les bourgeois. Et donc, là encore, vous voyez que dans les contributions, la famille royale donne un peu plus que 5%, la cour donne encore 7%, le conseil du roi 14% et demi, et ainsi de suite. Donc, en fait, ils ont eu besoin de passer un peu par cette voie, je dirais plutôt politique, même s'il y a, par exemple, les noms identifiés tout en bas, mais par exemple, les marchands et banquiers représentent que 6,4% des gens qui ont fourni leurs trois paiements donc, en septembre 1665. Alors là, vous voyez donc qu'il a eu pas mal de difficultés à le faire, et ça reste d'ailleurs un problème, c'est-à-dire que c'est... Finalement, ce n'est pas une compagnie qui va, et c'est un peu le contraire du cas de la compagnie néerlandaise, jamais jouer, avoir la possibilité d'une très grande autonomie. Car l'État est toujours trop intéressé, l'État est toujours trop impliqué dans la gestion quotidienne. Et parfois, l'État a des idées qui sont beaucoup plus intéressantes que les particuliers, mais c'est néanmoins un problème. Il y a néanmoins des tensions entre ces deux conceptions. Alors, revenons donc à François Le Gouze de la Boulaye. Quel rôle a-t-il dans cette affaire? On a vu que Caron est parti qu'en 1666. Mais avant ça, en fin 1664, donc, Colbert va envoyer Le Gouze de la Boulaye avec deux autres compagnons en direction de la Perse et de l'Inde, avec un autre projet, c'est-à-dire que même avant l'arrivée des navires, d'avoir les permissions et les fermans, c'est-à-dire les textes officiels, soit du Shah de la Perse, soit de l'empereur moghol. Et pour cela, donc, il envoie, comme je vous ai dit, Monsieur de Lalain, et Monsieur Le Gouze de la Boulaye. Et on peut suivre leur chemin. Ils vont partir de Marseille en passant par l'Empire ottoman. Donc c'est la voie traditionnelle et terrestre pour rentrer par l'Empire ottoman en Iran. Là où ils vont, donc en 1665, on l'a vu, rencontrer Tavernier qui va faire donc cette espèce de relations assez mauvaises langues sur leur présence à la cour des Safavides, et pour arriver finalement en Inde, en passant par Kong et Surat. Donc ils vont arriver en Inde en début 1666, quelques mois donc avant Caron. On a les instructions qui ont été données à Le Gouze de la Boulaye et à M. Lalain. Alors, là, vous voyez que... Donc, il avait déjà publié son texte, il s'est marié, et il est donc envoyé en 1664 pour arriver à Isfahan en 1665. Et d'ailleurs, les instructions qui ont été données à le Gousse de la Boulaye sont des instructions assez étranges, il faut le dire. Donc, je vous donne quelques éléments de ces instructions. Sa Majesté, au milieu des grandes qualités dont il a plu à Dieu le doué, etc., et en celle d'une curiosité louable d'être particulièrement informé, etc., il continue un peu comme ça. Mais alors l'idée, c'est de démontrer dans tous ces moments quand le Gousse de la Boulaye et les autres vont se trouver devant les souverains asiatiques, une certaine façon de présenter la cour de Louis XIV et la France. Par exemple, la cour de Louis XIV, il faut dire qu'il est toujours présenté comme si c'est quelqu'un qui a une espèce de qualité, moi je dirais presque millénariste, tellement il est spécial. On dit par exemple que... qu'encore que la coutume de nos rois soit d'être toujours au milieu des princes et grands seigneurs de leur cour qui sont habillés de même que sa majesté, sans aucune différence, il n'est jamais arrivé qu'un inconnu les prie pour un autre. Ni un autre pour lui. Tant la beauté et la grandeur de sa taille et la majesté de son visage sont faciles à remarquer. Donc, de la même façon, on va continuer pour décrire sa cour, ses palais, et aussi sur l'importance donc, militaire de ses possessions, donc en insistant par exemple sur, vous voyez, la grandeur de Louis XIV, il a fait passer ses armées depuis la frontière de son royaume jusque dans la Hongrie, sans faire le moindre désordre. Et le jour même qu'elles y sont arrivées, l'armée des Turcs ayant forcé le passage d'une rivière, c'est ça donc comment il a battu les Turcs, comment en fait Louis XIV est maintenant présent sur les quatre continents. Et comment ça? Parce que bien sûr il y a la Nouvelle-France, il y a le Madagascar, il y a l'Europe sans problème, mais pour l'Afrique, là on peine un peu. Et là, vous voyez comment ils vont trouver une solution. Quand la même année, donc, non seulement il a employé ses forces maritimes pour réprimer les corsaires de barbarie qui infestaient la mer Méditerranée, mais même pour les tenir en bride, il a fait passer la mer à ses troupes qui ont pris le poste de Jigéri. Là, vous voyez, c'est en Tunisie, c'est un petit moment, ceux parmi vous qui sont des affectionné d'Alexandre Dumas, vous vous rappelez que c'est là où est mort Raoul de Bragelonne, si je ne me trompe pas, dans cette affaire de Jigéri, sur la côte d'Afrique, lequel il fait fortifier pour les contenir de plus près et empêcher la continuation de leur piraterie. Donc, du coup, il a aussi une présence africaine, il est présent donc sur les quatre continents. Et on verra donc qu'il y a une espèce d'insistance dans ce texte sur la grandeur et surtout la grandeur militaire de la France et des Français. Et on verra par la suite que c'est quelque chose qui est débattu et où il y a des questions qui sont posées par d'autres qui ne sont pas du tout d'accord avec cette façon de présenter la France et les Français. Alors, pour nous, ce qui est donc important, c'est le passage de le Gousse de la Boulaye, donc qui arrive à Isfahan, où il va se retrouver déjà dans une situation compliquée. Pourquoi ? Parce qu'il se retrouve déjà dans une situation où les Français sont représentés de trois façons différentes. Donc, il y a les marchands, et on avait vu cette histoire de comment, en arrivant à la cour, les gentilshommes ont voulu avoir la précédence. Et il y a eu une confusion, c'est-à-dire la façon de faire asseoir les gens n'était pas correcte selon les gentilshommes. Et donc, on a cette histoire racontée par Tavernier dans laquelle le Gousse de la Boulaye commence à crier très fort « Man Beg Zadeh » Je suis un gentilhomme et il ne faut pas me faire asseoir comme ça. J'ai un statut qui est plus élevé que les marchands. Donc on a déjà cette espèce de tension entre gentilhomme et marchand. Mais bien sûr, il y a aussi un troisième élément très compliqué, c'est la présence missionnaire. Donc, parce qu'il y a déjà un vieux rusé qui est présent à la cour de Isfahan, qui s'appelle le père Raphaël Dumont, qui connaît très bien l'Iran, qui est un peu le go-between pour ces choses. Et là encore, les choses sont difficiles parce que le Gousse de la Boulaye a des contacts dans le milieu missionnaire, mais surtout en passant par les missions étrangères. Parce qu'il s'avère qu'il est un proche parent de Monseigneur Palu, qui est parmi les gens importants au début des missions étrangères. Et là, il y a donc des tensions. Alors du coup, donc, en arrivant en Iran, on ne peut pas dire qu'ils ont eu un grand succès, même s'il ne faut pas toujours se fier du point de vue de Tavernier. Mais c'est surtout donc, en allant plus loin que les problèmes vont se poser encore. Et là, je vais revenir un moment, dans quelques instants sur une lettre, peut-être la dernière lettre qu'on a de Le Gousse de la Boulaye, écrite de Sourate, en 1666 à Colbert. Mais avant ça, j'ai quand même envie de passer par un autre élément, un dernier élément, qui est déjà présent, par exemple, dans les voyages de Tavernier. Donc, Tavernier et le Gousse de la Boulaye sont connus déjà à l'époque du premier voyage de le Gousse de la Boulaye. Donc, si vous regardez le texte des voyages, à la fin de la liste des ouvrages qu'il a consultés, il va dire, le Gousse de la Boulaye, qu'on attend toujours avec impatience, plus ou moins, qu'un jour, M. Tavernier prenne le temps de faire une description de ses voyages, etc. Donc, ils sont connus. Manifestement, ils n'appartenaient pas au même groupe ou à la même classe. Il y avait, bien sûr, de la part de Tavernier au moins quelques problèmes dans sa vision de fonctionnement de l'autre. Mais ils ont quand même quelques aspects en commun. Comme on a vu, le Gousse de la Boulaye aimait se déguiser en persan, Tavernier aussi. Ils avaient un peu le même goût, la même présentation de soi. Et d'ailleurs, Tavernier a terminé sa vie comme espèce d'aristocrate, baron de Aubonne, mais voilà. Mais l'aspect le plus intéressant, c'est que si on regarde le texte de Tavernier, c'est un texte qui insiste sur les réseaux des autres. Et comment, en effet, pour un voyageur européen, il ne suffit pas de s'appuyer sur les autres Européens et leurs contacts, mais en fait, c'est l'insertion dans les réseaux mercantiles plus généralement qui, pour lui, sont cruciales, surtout pour quelqu'un comme Tavernier, qu'on sait s'intéresser beaucoup au commerce des joyaux. En fait, c'était son affaire principale. Et en regardant son texte, on se rend compte que, soit dans le premier texte, soit dans ce deuxième texte où il y a la relation portant sur le deuxième voyage de Le Gousse de la Boulaye, un élément qui ressort très très fort, qui est aussi mentionné maintes fois par un autre voyageur de l'époque, qui est Jean Chardin, que vous voyez ici, c'est le fait que si on est dans un port comme Sourate, si on est dans un port comme Bandar Abbas, partout où on est dans l'océan Indien, la meilleure façon de faire, c'est donc de passer par les Arméniens. Donc ça, c'est quelque chose qui est une espèce de donnée très, très présente dans tous ces écrits. C'est un livre qui vient de sortir d'un de mes collègues de Los Angeles, qui est sorti il y a 3 ans, je crois, qui est quand même un livre très important, car c'est la première fois que quelqu'un a vraiment pu ramasser une masse très importante de documents des marchands de Djulfa, écrits dans leur propre dialecte, ce qui n'est pas l'arménien, disons, standard. On sait qu'il y avait auparavant des textes qu'on avait déjà remarqués, par exemple, pendant très très longtemps. C'est cet article publié dans les annales par l'historien arménien Levon Khatchigian, qui avait été au centre de toute discussion des Arméniens, parce que M. Khatchkian a pu trouver et interpréter le journal de voyage d'un certain marchand qui s'appelle Hovhannes Yugayetsi et qui avait donc fait ce voyage en Inde, en Perse, jusqu'à Lhasa. Donc ça, c'est un itinéraire assez important. Bien sûr, on avait aussi pas mal d'autres données, comme par exemple, il y a pas mal de tombeaux et de pierres tombales des Arméniens. Ça, c'est une pierre tombale qui est à Chinsura, dans le Bengale. Et en bas, en portugais, on trouve écrit ici quelque part, « Aqui jaz João Marcos Arménio ». Ici dort João Marcos Arménien. Et ça, c'est assez commun parce que les Arméniens souvent aussi prenaient d'autres noms. Ils prenaient des noms persans, ils prenaient des noms portugais. C'était parfois des traductions, donc João étant Hovhannes, mais il y avait aussi parfois des noms qui étaient un peu écartés de leur nom original. Mais l'intéressant, c'est que maintenant, à partir surtout des travaux de M. Aslanian, que je viens de citer, on peut reconstituer donc, les réseaux très importants, très épais, entre l'Inde, l'Asie du Sud-Est, mais aussi en passant par l'Iran, par à la fois la Russie et Amsterdam, etc. Mais dans cette carte-là, il y a une chose qui manque, c'est-à-dire il y a aussi un aspect français et parisien, car pendant le XVIIe siècle, les Arméniens commencent à être présents à la fois à Paris, mais surtout à Marseille, à partir de Livourne. Et Colbert, donc, et ça c'est la dernière pièce manquante, aussi se mettre en contact avec les Arméniens. En pensant que donc qu'on aurait l'anglais qui donne des avis militaires et navals, il y a le portugais qui raconte la géographie de l'Inde, il y a le monsieur le bruxellois qui va gérer les choses d'une certaine façon, il y a le gentilhomme qui est là pour traiter les questions de la diplomatie comme il faut, mais il y a aussi donc cette présence des Arméniens à l'intérieur de l'affaire. Alors, bien sûr, ça nous fait remonter jusqu'au XVIe siècle, quand on commence à voir assez clairement les Arméniens comme un élément important dans le commerce de la Méditerranée. Ça, c'est le récit de voyage de Nicolas de Nicolet, dans lequel il nous fait une belle description donc, du commerce arménien, et ça, c'est censé être donc un marchand arménien. Surtout dans le cadre de l'Empire ottoman. Ça, on est au milieu, deuxième moitié donc, du XVIe siècle. Mais il y a donc par la suite un changement très important qui s'est produit, et là, je reprends un texte du XVIIIe siècle qui raconte un peu la légende dorée de la transformation du réseau arménien. Mais en fait, c'est une légende assez dorée parce que les choses se sont passées d'une façon un peu différente par rapport à ça. Alors, selon ce texte-là, qui est une espèce d'histoire universelle du XVIIIe siècle, on nous dit qu'à l'époque de Shah Abbas, roi de Perse, donc entre 1587 et 1629, donc à la fin du XVIe siècle, Shah Abbas confia une quantité considérable de soie au fils d'un riche marchand d'Isfahan et l'envoya à Venise. Dès que le jeune persan y fut arrivé, il prit une maison magnifique et fit belle dépense. Le Sénat, s'étant informé à la fin qu'il était, jugea à propos de saisir de lui et de ses marchandises pour en empêcher l'entière dissipation, etc. Donc, il nous dit en effet que Shah Abbas s'est rendu compte que les personnes n'étaient pas du tout compétentes dans la matière du commerce. Ils n'étaient pas capables de gérer les questions commerciales. Ils étaient plutôt, ils avaient tendance à dépenser trop d'argent. Et alors là, donc, on nous dit que Shah Abbas jeta les yeux sur les Arméniens, qui étaient sobres, ménagers et gens de fatigue pour entreprendre des longs voyages. Et il jugea qu'étant chrétien, il ferait plus propre à traiter avec les chrétiens. Il choisit parmi eux les plus intelligents et leur fit donner à chacun un certain nombre de balles de soie qu'ils devaient payer à leur retour, ce qui leur était raisonnablement taxé et ce qu'ils pouvaient les vendre de plus était pour leur peine et pour les frais de leur voyage, etc. Ils se font rendus en peu de temps si experts qu'ils vont à présent jusqu'à Tonkin, à Java, aux Philippines et partout l'Orient, à la réserve de la Chine et du Japon. Donc, ça, c'est la légende dorée Shah Abbas qui voit que les personnes ne sont pas de bons commerçants et donc il rentre en contact avec ces Arméniens avec une espèce de système assez bien rodé qui serait donc avantageux. Mais c'est loin de la réalité. La réalité, c'est que Shah Abbas, à la fin du XVIe siècle, a fait la guerre en Arménie et il a fait transporter par force des milliers de familles des Arméniens contre leur gré, et dans lequel il y a eu des massacres, il y a eu pas mal de gens qui ont été tués. D'ailleurs, l'historien anglais Edmund Hudsick récemment a écrit un article en insistant en fait sur la violence de ce transfert, que ce n'est pas du tout quelque chose qui s'est passé doucement. Mais en tout cas, le résultat de tout cela, c'est qu'on voit se faire créer dans les alentours d'Isfahan, dans à Nouvelle Julfa, une espèce de colonie arménienne très importante, qui s'appelle donc Nouvelle Julfa par rapport à Julfa, l'original qui était en Arménie. Et là où on a donc ces Arméniens qui vont garder leur foi chrétienne, mais qui sont plus ou moins dans une situation où ils peuvent fonctionner par rapport à l'État iranien et safavide. Il y a un certain nombre de ces Arméniens, d'ailleurs, qui soit se sont convertis à l'islam, ou soit autrement, sont rentrés même dans l'appareil de l'État. Mais il y en a d'autres qui sont restés chrétiens, mais qui ont quand même eu cette possibilité de commercer à très large échelle, comme on a vu, jusqu'en d'un côté en allant jusqu'à Astrakhan et à Amsterdam, à Livourne, etc., et de l'autre côté, donc finalement, jusqu'à Mani et à Macao à la fin du XVIIe siècle. Alors, donc, c'est qui parmi ces Arméniens que Colbert va choisir ? C'est quelqu'un qui s'appelle donc Martin Markara Avachins ou Avanchins. C'est un marchand arménien dont Colbert a entendu parler. Il a l'impression que c'est quelqu'un qui a une bonne réputation. Et donc, du coup, il va rentrer en contact avec lui. Et son idée, donc, c'est de envoyer Markara dans un espèce de duo avec Caron. L'idée étant que Caron a son savoir, mais le problème avec le savoir de Caron, c'est d'un côté que c'est basé sur l'Asie orientale en grande partie. Donc Caron n'a pas une connaissance qui est tellement forte sur le monde islamique. Et de l'autre côté, le problème avec Caron, c'est qu'il a une connaissance qui est quand même qui fait un peu datée, parce que ça fait un petit moment qu'il n'a pas été en Asie. Et l'avantage avec Markara, c'est censé être les trois choses suivantes. Premièrement, Markara est persophone. Donc, il peut parler persan, il peut se débrouiller en persan dans toutes les situations où il faut, sans avoir besoin d'un autre intermédiaire. Deuxième chose, qu'il a ses propres réseaux de finances. Donc, il peut aussi trouver à financer les choses sur place si jamais il le faut. Et la troisième chose, bien sûr, avec Markara, c'est qu'il a fait ce voyage assez souvent. Donc, il a aussi une connaissance assez actualisée de la situation en Inde. Mais on sait que cette idée qui a l'air d'être assez idéal, partage entre Markara qui est nommé plutôt donc il y a Caron qui est directeur général de la compagnie et Markara qui est directeur des comptoirs. Donc c'est un peu leur rapport. Mais on sait que en fait les choses vont tourner en vinaigre tout de suite. Markara et Caron ne s'entendent absolument pas. Et le résultat de ça, c'est qu'on a toute une série de documents, des documents d'ailleurs très utiles, parce que Markara va finalement passer d'une situation où il va commencer à avoir des petits problèmes avec Caron. Et une fois arrivé à Surat, ces petits problèmes deviennent des gros problèmes. Caron l'accuse de faire un jeu compliqué derrière le dos de la compagnie. Et surtout, il y a ce problème où l'avantage est devenu un désavantage, c'est-à-dire que les Français et surtout Caron a l'impression qu'il est face à quelqu'un qui n'est pas fiable et qui dit des choses en personne que lui, il n'arrive pas à comprendre. Donc, il a l'impression que quand on se met dans des pourparlers avec les gouverneurs, Caron dit une chose, Marcara dit quelque chose, mais on ne sait pas s'il dit la même chose ou non. Donc, du coup, les rapports entre les deux hommes deviennent de plus en plus violents. À un moment donné, il y a un moment très curieux quand la flotte française passe devant un comptoir néerlandais. Et les Néerlandais dans ce comptoir, qui ont connu Caron dans le temps, vont venir saluer Caron. Et Caron, parce qu'il a honte d'être associé avec l'Arménien, va cacher Marcara à l'intérieur du bateau parce qu'il n'a pas envie de démontrer qu'il est plus ou moins un partenaire de cet Arménien qu'il manifestement il trouve comme un être inférieur. Donc vous voyez que ça c'est assez typique peut-être, mais en tout cas vous voyez que Caron, qui avait des rapports qui étaient tellement positifs avec les Japonais, qui avait des enfants qui étaient à moitié japonaises, qui avait donc cette réputation venant de ses expériences dans l'Asie orientale d'être quelqu'un qui était ouvert à toutes sortes de choses de ce genre, alors passer à une autre situation et passer à un autre rapport avec une autre communauté se montre incapable donc d'être à la hauteur des choses. Alors, donc, du coup, il va commencer à mettre des doutes sur les origines de Marcara même. Donc, Marcara, par exemple, dans son texte, est obligé de dire « Le sieur Marcara Avanchin, c'est natif de la ville d'Isfahan, capitale de Perse, et issu d'une des plus considérables et des plus anciennes maisons que Shah Abbas, surnommé le Grand, roi de Perse, transféra sur la fin du siècle précédent de l'Arménie majeure à Isfahan, capitale de Perse. Et suivant l'ancien usage de ce pays et la pratique de sa nation, il s'est occupé au plus considérable négoce des Indes orientales. Et cette occupation lui est d'autant plus avantageuse que, sans exception, toute la noblesse de Perse, d'Arménie et même de toute l'Asie sont marchands et font commerce, sans que cela leur soit imputé à aucune dérangeance. » Donc, il y a le jeu qui se joue encore, c'est-à-dire, s'il est marchand, comment peut-il se présenter comme noble? Tandis que, alors là, Marcara va présenter ça comme faisant partie d'une autre sociologie, c'est-à-dire des sociétés où les lignes de différence entre nobles et commerçants ne sont pas du tout les mêmes qu'en Occident. Mais finalement, c'est Caron qui gagne au moins au départ, donc il va mettre... Marcara en fer et il le renvoie dans un bateau en France en l'accusant de toutes sortes de trahisons, etc. Et Marcara d'ailleurs va passer un voyage très compliqué de plusieurs années parce que je crois qu'il va faire le chemin par l'Atlantique, il va à un moment donné même s'arrêter au Brésil et finalement il rentre avec ayant passé ce moment extrêmement pénible et faire procès donc contre la compagnie. Et à partir de ce moment-là, les rapports entre compagnie et arménien vont se gâter. Et d'ailleurs, les Français ne vont jamais pouvoir remettre les rapports avec les Arméniens dans le cadre de la compagnie des Indes sur le même pied qu'ils avaient songé au départ. Alors, donc, dernière pièce, c'est M. Bernier, qui, lui, est déjà à la cour moghole. Monsieur Bernier, disciple de Gassendi, grand intellectuel, médecin, qui, lui, observe tout cela d'une certaine distance et qui va faire, lui aussi, un rapport pour Monsieur Colbert. Et dans ce rapport, il nous dit, en effet, qu'il a vu se passer toutes ces choses-là. Il n'avait pas été consulté pour la construction de la compagnie, mais il nous dit, en effet, qu'il faut quand même faire gaffe par rapport à un certain nombre de choses. Et c'est intéressant comment lui, il voit les choses. Par exemple, il dit qu'il y a quelque chose que nos ennemis aient fait entendre à la cour, c'est que les Français appartiennent à un roi qui est très puissant et que c'est une nation guerrière, impérieuse et turbulente. Donc, vous voyez, c'est exactement ce qu'il y avait dans le texte de la boulaye, c'est-à-dire c'est les instructions de la boulaye. Tandis que lui, il dit, il faut tâcher d'ôter tout sujet à Aurangzeb au ministre d'appréhender qu'il ne devient un jour trop puissant dans ce quartier, parce que donc, bien sûr, là, on va penser aux Portugais. En fait, donc, il faut plutôt faire croire aux Moghols que la France est une nation, disons, de artisans. C'est une nation paisible où on ne fait pas la guerre, on fait des beaux produits, et on est une nation de commerçants et d'artisans, hein, et pas du tout un pays de guerriers, parce que c'est la meilleure façon donc, de rentrer et avoir la confiance des Moghols. Et c'est aussi intéressant de voir ces deux petits passages. Il revient sur le problème donc, de notre ami Hugo. Parce qu'il sait très bien qu'il y a quelque chose qui s'est passé en mer Rouge. Il dit, pour ce qui est de l'affaire de Juge, hein, qui vint il y a quelques années faire cette belle affaire de Moka, si on venait à en parler, je serais d'avis de dissimuler là-dessus adroitement tant qu'on pourrait, et puis, si l'on pressait, de dire qu'il n'est pas français, mais hollandais. Et si l'on juge à propos que les Français n'avaient jamais été aux Indes et qu'il fallait croire qu'il les eût trompés en leur faisant croire qu'ils allaient aux Canaries ou en quelques îles. Donc, ça, c'est sa façon de régler le problème de Hugo. Et bien sûr, là aussi, il y a une dernière petite chose, c'est là où il va donc aussi nous parler. Pour ce qui est d'affaires du nommé Bébert et de la Boulaye, quoi que ce soit un assassinat qu'il faut écrire en lettres rouges pour en témoigner quelques jours nos sentiments en temps et lieu. Néanmoins, pour le présent, je serais d'avis qu'on ne parle pas du tout. Alors, c'est quoi l'histoire de l'assassinat de la Boulaye? Là, on le connaît surtout par Tavernier, c'est-à-dire de la Boulaye, passant par le Gange, en allant, soi-disant, en direction de la Chine, tout seul, avec ses caisses, avec ses livres et avec ses bouteilles de vin, donc qui arrive à traverser la rivière, mais il est donc pris par des bandits qui ont eu un malentendu sur le contenu de ses caisses. Et là, donc, il est tué sur le bord du Gange. Donc, parmi les hindous, au moins, ça serait considéré comme une belle mort. Merci.